Oxford, Cambridge and RSA examinations. Advanced GCE. French. Unit F704. Listening, reading and writing 2. June 2011. Task 1. E-Cub. A rather special robot.
E-Cub, le robot canadien, me regarde. Deux bras, deux mains, deux jambes et des yeux de résine dotés d'une caméra qui suivent les mouvements tout comme les yeux d'un être humain. Ce que voit le robot se montre en temps réel sur un écran d'ordinateur. E-Cub, le robot, a fait son entrée dans le grand monde le 1er juillet, présenté par Peter Dominet et son équipe d'une dizaine de chercheurs français. Cette équipe se consacre désormais à éduquer E-Cub, car c'est bien d'éducation qu'il s'agit. Le réseau informatique d'E-Cub est une copie du cerveau humain. Peter Dominet explique.
E-Cub va remplir deux fonctions. D'abord, avec son réseau informatique, le robot permettra de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et d'identifier les causes des maladies neurologiques. Son autre tâche, qui justifie le fait que E-Cub ait une apparence humaine, est de nous servir de compagnon.
Exactement comme un enfant, E-Cub fait son apprentissage en observant les humains. Il apprend à anticiper leurs demandes. Peter Dominet, vous travaillez sur E-Cub depuis une quinzaine d'années. Comment voyez-vous son avenir?
Je pense que, durant notre siècle actuel, les familles investiront dans un robot de maison comme elles s'achètent aujourd'hui une voiture. Dans les foyers, E-Cub pourra veiller auprès d'une personne âgée ou servir de compagnon à un enfant autiste, pour qui le contact avec les autres est parfois compliqué.
De plus en plus autonome, donc. Sera-t-il un jour incontrôlable?
C'est vrai que, même s'il a l'air gentil, il est capable de faire mal. Mais il a des systèmes de sécurité qui nous permettent de gérer sa force.
Tâche 2. On se souvient encore des émeutes.
Joël Bordet, pourquoi ces émeutes se sont-elles produites?
Chômage, misère, cette explosion de rage a de multiples causes. Et puis, n'oublions pas les bandes qui rendent d'autant plus difficile leur intégration dans la société. Affirmer leur force, en mettant le feu par exemple, permettent à ces garçons de pouvoir dire « j'existe », au moins à la télé. Cela a également un rapport avec la haine envers la police, car les contrôles policiers sont de plus en plus musclés.
Le ministre de l'Intérieur de l'époque a employé le terme « racaille » pour désigner ces jeunes. Pourquoi ce terme a-t-il déclenché une telle colère dans les cités ?
Quand un ministre de l'Intérieur, à la tête de la police, qualifie les jeunes de racailles, il adopte le même langage que les jeunes. Or, les policiers doivent éviter d'avoir un rapport trop proche avec les jeunes. Prétendre être copain avec eux, ce n'est pas mieux que se présenter comme un rival à défier. Au contraire, il faut garder une certaine distance, propre à l'autorité.
Pour les jeunes, s'agit-il en partie d'un jeu?
Faire peur en mettant le feu est excitant, comme une drogue. Quand le réel est insupportable, on cherche des paradis imaginaires. Cela ne concerne pas que garçons. J'ai entendu une jeune fille dire « Moi, quand je m'ennuie trop en classe, je pense aux émeutes. Je me rappelle la voiture qui brûlait devant chez moi il y a 3 ans. »
Les parents peuvent-ils empêcher leurs enfants de participer aux émeutes?
Beaucoup de pères ne sont pas présents ou gagne trop peu pour être un modèle pour les jeunes garçons. Faute de s'identifier au père, il s'identifie à la bande de jeunes. Celle-ci devient une micro-société de survie, un lieu où l'on a un statut social et une dignité.
Que faire pour éviter de telles émeutes à l'avenir?
Chacun peut agir, même si on vit loin de ses cités. On peut encourager sa propre ville à réduire la ségrégation en construisant des logements sociaux dans tous les quartiers, promouvoir des associations qui travaillent en coopération avec les collèges et les lycées pour que les enfants du milieu différent se connaissent. Mais aussi, créer des lieux de rencontre. Quand une cité commence à discuter, c'est moins violent.
This is the end of the recording.